Une transformation fructueuse. Ça vous intéresse? Oui? Amen. Alors, on va lire Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non pas ne voyons vraiment prendre, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Quelle belle parole, n'est-ce pas? Et le Seigneur a enseigné cela à ses disciples juste après avoir quitté la chambre haute. Il avait pris le dernier souper avec eux. Donc, il a quitté cet endroit-là. Et peut-être que chemin faisant, il y avait une vigne qui était à proximité, ça se peut. Et que Jésus a commencé donc, en s'inspirant de la vigne, d'enseigner cette parabole aux disciples, parabole qui nous a été relatée par l'apôtre Jean. Le Seigneur est le cep, ça c'est le pied de la vigne. Le Père céleste est le vigneron qui prend soin de la vigne. Et nous, on est les sarments, les branches de la vigne, appelés à porter du fruit. Et Jésus dit, je suis le vrai cep. Pourquoi est-ce qu'il dit le vrai? C'est parce que dans le prophète Isaïe, il est dit que Dieu avait choisi un plan précieux, un plan dispendieux. La tribu de Juda, où Jérusalem était, la ville de Jérusalem, qui avait planté ce plan-là dans la vigne d'Israël, mais que malheureusement, après avoir pris soin, le plan n'a pas porté de bons fruits que de mauvais fruits. Et la nation d'Israël, nous savons, a failli à sa mission. Et ils ont été envoyés en esclavage, en exil. Alors Dieu a envoyé son Fils unique, le vrai cep, celui qui vient pour donner la vie, frères et sœurs. Et on dit que de toutes les plantes cultivées, la vigne est celle qui demande le plus de soins. Est-ce quelqu'un ici qui est vigneron? Non, personne n'a cultivé la vigne ici. En tout cas, j'ai lu ça quelque part, que c'est la plante qui demande le plus de soins. Donc, ce plant-là, Jésus est planté dans une terre hostile, ce monde présent. Parce qu'il est dit au chapitre 15 encore, et au verset 18 ici, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Quoique le Seigneur, à plusieurs occasions, a été accueilli les bras ouverts en d'autres occasions, on l'a rejeté et persécuté, on a tenté de le lapider et finalement on l'a crucifié. Il est venu donc dans une terre aride, difficile, hostile à lui. Mais il est le plan unique envoyé de Dieu sur cette terre, frères et sœurs. Un plan dispendieux, un plan revêtu du Saint-Esprit. Et tout l'amour de Dieu s'est manifesté au travers de lui. Quel privilège! Tout l'amour de Dieu envers lui. Dernièrement, j'écoutais une émission de la télévision, genre de talk show, et il y avait un philosophe français qui s'appelle Frédéric Lenoir, qui est un monsieur très connu, qui donne beaucoup de conférences au travers le monde. Et je suis allé voir cette semaine sur son site, puis il a publié un livre qui est intitulé, et on va le voir à l'écran, « Comment Jésus est devenu Dieu ?» Est-ce que c'est vrai, ça? Non. C'est Dieu qui est devenu homme. Et en fait, dans l'entrevue, il mentionnait qu'à l'âge de 20 ans, il a lu l'Évangile de Jean, comme ça, il a ouvert la Bible, il a lu l'Évangile de Jean, c'est un homme qui cherchait Dieu. Et il y a eu comme une révélation, il a été vraiment étonné de l'amour inconditionnel de Dieu. Sauf qu'il n'a pas su où chercher vraiment à connaître davantage. Il s'est trouvé au monastère pendant 3 ans. Après ça, il est allé en Inde et puis il a voyagé et tout ça. Il a étudié le bouddhisme, etc. Finalement, il n'a pas connu vraiment la vérité. Je me promets, je me dis, je vais y écrire certainement, puis je vais y dire qu'est-ce qu'il y en a à propos de ça. Parce que ce qui est dit dans l'Évangile, c'est tout le contraire. En Jean chapitre 14, il est dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez lu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus est venu en tant que Dieu. En fait, ce que M. Lenoir dit, c'est que les chrétiens des premiers siècles ont fait de Jésus un Dieu. Il n'a pas compris l'Évangile. Mais nous savons qui il est. Le Fils de Dieu fait homme. Celui en qui Dieu a mis toute son affection. Amen. Le Père Céleste a mis toute son affection en lui. Le sarment. Un sarment, c'est la branche de la vigne, et ce n'est pas comme dans un arbre, la branche qui monte vers le ciel. Un sarment, c'est une branche que, si on ne la soutient pas, elle va ramper au sol. Alors, il faut la soutenir. On voit ça souvent dans les vignes, ils vont installer des clôtures pour que les sarments soient bien accrochés, et comme ça, les fruits ne toucheront pas le sol, mais ils vont être à l'air libre. On a besoin d'être soutenu aussi. Et Dieu peut nous soutenir. Chacun de nous a besoin des soins attentifs du Père Céleste, le Sœur, afin de nous garder en lui, afin de faire en sorte qu'on devienne des sarments productifs. Et le Seigneur dit qu'un sarment qui est infructueux, il le coupe. Parce qu'un vigneron, ça ne sert à rien s'il ne porte pas de fruits. Il prend de la sève pour rien. Alors je vais l'enlever, puis il va faire en sorte que les autres sarments portent du fruit en abondance. Il l'émonde, il le taille. Avec quel outil? Avec quoi Dieu nous taille-t-il? Dans Hébreux chapitre 4, il est écrit ceci. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. La parole agit en nous comme un sécateur. Elle vient enlever ce qui est mauvais afin qu'on porte davantage de fruits. Merci Seigneur pour sa parole. Il vous encourage à la lire, sa parole, la méditer, la laisser entrer en vous. Elle va travailler en vous. Elle peut parfois vous amener aussi à découvrir des choses que vous n'aimeriez pas voir. Il y a un an et demi, pour la première fois de ma vie, je suis allé voir un dermatologue. Un médecin m'a envoyé là. Et le dermatologue a vu quelque chose que moi, je ne voyais pas dans mon visage. Il m'a dit, ça c'est précancer. Il m'a prescrit une crème et il dit, mettez ça deux fois par jour pendant 15 jours. Alors, j'ai mis deux fois par jour pendant 15 jours, et au bout de 15 jours, j'étais rouge comme un homard. Parce que ça brûle. Et après ça, ça a fait des guerres. C'est vraiment beau à voir, je vous assure. Deux mois après, je l'ai revu, plus rien du tout. Ah, j'étais content. Vendredi, il y a deux semaines, j'avais encore, parce qu'il m'a dit, on se revoit dans un an. Alors, je vais le revoir, et puis, il me regarde à nouveau. Ah, il voit quelque chose ici. Il prend sa loupe avec une lumière, puis il regarde. Oh, quelque chose qu'il n'aimait pas. Alors, il va faire une biopsie. Il ne m'a pas demandé la permission. Couchez-vous là, faites une piqûre, faites une biopsie, brûle l'affaire. Alors, il y a deux semaines, c'est moins beau à voir un peu, là, mais là, ça s'améliore. Merci Seigneur. Je dis ça pourquoi? Parce que notre Père Céleste voit parfois des choses dans nos vies que nous, on ne voit pas. Parfois, il met en lumière des choses que nous, on ne sait pas. Pour notre bien. Et j'étais vraiment surpris parce que vendredi, il y a deux jours, à 5h l'après-midi, je reçois un appel de qui? Le dermatologue. Ah, il y a un médecin qui m'appelle, wow! Pour me dire que finalement, la biopsie n'avait rien donné de résultat parce qu'elle n'avait pas prélevé assez, bon, OK. Mais parce qu'il doutait que ça pouvait être cancéreux. Okay. Ça ne l'est pas. Mais il m'a dit, comment ça va? Ben, ça guérit bien. Alors, ben voilà, alors, ben, merci beaucoup, docteur. On se revoit dans 6 mois. Très bien. Mais le dermatologue se soucie de moi. Imaginez le Père Céleste encore bien plus. Il se soucie de nous pour nous changer, pour nous purifier, nous. Ben, comme on a lu ce matin ici, là. Il ne veut pas qu'on devienne des sarments stériles, mais qu'on soit des sarments fructueux. Si j'avais dit au docteur, oh non, docteur, vous ne faites pas ça, là. Il n'en a pas question. Peut-être ça aurait empiré. Alors, Dieu le Père aussi, il faut le laisser agir en nous parce qu'il veut le meilleur pour nous. Sa parole est une mission de nous sanctifier. La mission de nous faire prendre conscience de ce qui peut être nuisible dans nos vies pour nous amener à changer, nous laisser transformer par lui. Merci Seigneur. Jésus a dit quoi ici au chapitre 15? Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est une parole qui nous purifie, qui nous nettoie, qui nous change. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, a dit le Seigneur. Sa parole agit en nous. Il dit donc, attachez-vous à moi et demeurez-y. Et ça, je trouve que c'est un commandement qui est plein d'amour envers nous. Ce n'est pas un ordre de général d'armée, c'est quelqu'un qui est plein d'amour pour nous. Demeurez en moi, demeurez dans ma parole, et je vais demeurer aussi en vous. Attachez-vous à moi. Parce que la vigueur du serment dépend de son attachement au cèpe, n'est-ce pas? C'est le cèpe qui tire sa sève pour produire du fruit. Et grâce à ça, on est assuré d'une vie fructueuse. Et au verset 5, il dit quoi ici? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Pas juste un petit peu, beaucoup de fruits. Il veut qu'on soit comme cela. Le serment, donc, dépend du cèpe, il est au service du cèpe, afin de témoigner de l'excellence du cèpe. Et notre vie, sur cette terre, frères et sœurs, notre mission, pour le temps qui nous reste à vivre, c'est de témoigner de l'amour de Dieu, de l'excellence de Jésus. Alléluia! C'est ce que Dieu veut qu'on devienne, qu'on se laisse changer par lui. Il a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs pour nous transformer. Il est venu habiter en nous. La plénitude de Dieu vient en nous. N'est-ce pas extraordinaire? Quand on est de nouveau, on est de l'Esprit. La vie de Dieu vient en nous. On ne fait rien pour ça, on ne fait que croire. Et c'est Dieu qui met sa vie en nous. Courons pas le risque de devenir nonchalants et de nous éloigner graduellement du Seigneur. Et là, le verset 7 nous fait toute une promesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué tantôt, là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? C'est vrai que des fois, on dit, oui, mais Seigneur, ça fait longtemps que je prie pour telle affaire. Comment ça, ça n'arrive pas? Il faut être patient. Mais je crois aussi que si nous laissons sa parole nous changer, nous transformer, si nous laissons sa parole orienter nos pensées, nos comportements, nos désirs, nos affections, nos prières vont s'accorder avec sa volonté. Et tôt ou tard, on verra l'exaucement. Parfois, c'est très tôt. Parfois, c'est plus tard. Dieu a son temps pour toutes choses. Mais on peut s'attendre à lui. Et il parle d'un fruit abondant par la suite. Un fruit qui fait la richesse et la réputation du vigneron. Et Dieu le Père, frères et sœurs, il veut être fier de nous autres. Il veut qu'on porte du fruit parce qu'on est appelé à sa fierté, sa gloire. C'est pas rien. Donc, il veut pour ça nous changer. J'ai pensé à une application de ce fruit. Il peut y en avoir certaines des applications, mais j'allais penser à une. Et c'est dans le Galates chapitre 5 et le verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est bien dit le fruit de l'esprit, et non pas les fruits de l'esprit. Alors je me suis dit, c'est le fruit de l'esprit aux 9 saveurs. Même pensez, je ne vais pas penser à porter 9 sortes de fruits, mais je vais vous distraire avec ça. Le fruit de l'esprit aux 9 saveurs. Vous avez tout ça en vous, les 9 saveurs, vous autres? Ça n'a pas l'air sûr. Ça dépend plus ou moins. Oui, on peut les avoir. Un fruit qui porte la saveur de l'amour. J'aime mon chat, j'aime mon auto, j'aime ma maison, j'aime... Mais ce n'est pas cet amour-là dont il parle ici. Le mot « agapé » qu'on connaît déjà nous parle d'un amour divin, un amour surnaturel, un amour qui se donne, un amour qui est prêt à se sacrifier. Et dans le Nouveau Testament, on a un exemple de cela. La lettre de Paul à Philémon. C'est très court comme lettre. Et Philémon avait un esclave du nom d'Onésime, qui n'était pas chrétien. Et Onésime s'est enfui de chez Philémon. Il était à Colosse, loin de Rome. Et il s'est enfui au loin. Il a volé son maître en partie, peut-être pris de l'argent pour payer son voyage. Et il s'est trouvé à Rome. Et comme par hasard, il s'est trouvé en prison avec l'apôtre Paul. Il est bien tombé, hein? Alors, Onésime se convertit. Alors, Paul écrit une lettre lorsqu'Onésime a été relâché et il renvoie la lettre avec Onésime chez son maître Philémon, qui était un ami de Paul. Et voyez ce que Paul lui écrit, entre autres choses. C'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu te retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. Philémon est un chrétien qui avait une église dans sa maison, donc un chrétien qui était certainement bien connu, remarquable. Mais quand Onésime est revenu à la maison, quels étaient les sentiments de Philémon à l'égard de son esclave fugitif qu'il avait volé? Est-ce qu'il a accueilli les bras ouverts? Ou s'il était comme ça, puis « Ah, t'as de là! » Est-ce qu'il chantait « Cher Onésime, c'est à ton tour! » J'ose croire que Philémon a chanté ça. J'ose croire qu'il a accueilli Onésime à bras ouverts. Parce que Paul, avec tout ce qu'il avait écrit là, c'était assez convaincant. J'ose croire qu'il a fait cela. Et ça, frères et sœurs, c'est l'amour quand on n'est pas nécessairement disposé à aimer. Quand on est appelé à aimer quelqu'un qui nous a fait du tort, quelqu'un qui nous a fait mal, démontrer un amour envers cette personne-là, ça prend Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit peut couler en nous et produire ce fruit qu'est l'amour. C'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le fruit de Paul, Jean, Jacques, Félix ou Denise ou un autre. C'est le fruit de l'Esprit. Évidemment, je suis appelé à collaborer avec Dieu. Mais c'est le fruit de l'Esprit. Alors donc, que faire? Seigneur, produis en moi cette saveur qu'est l'amour, Seigneur. La Bible dit, l'amour ardent couvre une foule de péchés. Un amour ardent qui couvre une foule de péchés. La deuxième saveur est la joie. La joie de vivre. Il y a d'abondantes joies devant ta face, Seigneur. Des délices éternels à ta droite. Et Jean-Baptiste a dit ceci. Celui qui est la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Jean-Baptiste, dans la présence de Jésus, était rempli de joie. Son ministère allait en diminuant, Jésus allait en grandissant. Il s'en réjouissait. Alléluia! C'était la joie du Seigneur, frères et sœurs. Il n'était pas déçu, ni triste de laisser sa place, mais il avait à jouer son rôle maintenant et laisser la place au Seigneur. La joie d'être avec l'époux, d'entendre quoi? La voix de l'époux, la voix du marié. Il y a une semaine ou deux de ça, Denise et moi, on a regardé un film sur YouTube qui s'intitule « Le rêve ». Et c'est le témoignage d'un musulman qui s'est converti. Un homme qui vivait en Turquie, qui était marié, il avait deux garçons, il était alcoolique et violent. Et à maintes reprises, il a battu sa femme. Alors un jour, alors qu'il pleurait sur son état par la suite, mais il recommençait. Puis un jour, quelqu'un lui a dit, « Mais va en Arabie Saoudite, l'alcool est interdit. Comme ça, tu ne vas pas arrêter de boire. » Donc, il est parti travailler en Arabie Saoudite. Mais quand une chose est interdite, ça n'a pas été long qu'il a trouvé comment s'en procurer. Ce qui fait que ça n'a pas vraiment changé. Alors, à un certain moment encore, là, qu'il était loin de sa famille, des compatriotes musulmans, ils ont dit, « Bien, on va aller à la Mecque, au pèlerinage. » Donc, ils vont, et ça, pour un musulman, faire le pèlerinage à la Mecque, c'est la chose la plus extraordinaire qu'ils peuvent faire. Il s'est rendu, mais il faut savoir ceci. Depuis sa jeunesse, alors qu'il était berger dans les champs, il parlait à Dieu sans le connaître. Il le cherchait. Alors qu'il était à la Mecque, une nuit, Jésus lui est apparu. Il lui a dit, « Tu m'appartiens. » Et il s'est réveillé, ayant eu cette révélation de Jésus. Alors, tout à coup, il commençait à parler de ça à ses amis, mais eux ne comprenaient pas trop. Et Dieu lui a dit encore maintenant, « Va-t'en. » Puis il est parti de la Mecque. Puis va-t'en dans ton pays, retourne dans ta famille. Il est retourné chez lui. Il est rentré en Turquie. Il a demandé pardon à sa femme. Sa femme lui a pardonné. Elle s'est convertie aussi. Quelle joie dans la famille, frères et sœurs. Alléluia. Mais je vais vous dire ceci. On n'entendra peut-être pas une voix audible du Seigneur. Peut-être qu'on n'aura pas une révélation de Jésus en rêve. Mais la voix de Jésus est dans cette parole. Il nous parle encore aujourd'hui. Il nous parle, il se révèle et il veut nous faire du bien encore aujourd'hui. Dieu est le même, frères et sœurs. Il veut agir dans nos vies. Alors ne laissons pas les choses de côté, au contraire. Laissons sa parole pénétrer en nous. Elle va nous faire du bien. La joie du Seigneur, malgré les difficultés de la vie. Ça ne veut pas dire que des fois, on ne sera pas triste, que des fois, on n'aura pas du chagrin, des circonstances de la vie qui sont comme ça. Et puis, c'est normal. Mais le Saint-Esprit, le Consolateur, va venir à nouveau en nous pour produire la joie dont on a besoin. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il va le faire en nous. Attendons-nous à lui, frères et sœurs. La troisième saveur est celle de la paix. D'abord, la paix avec Dieu. Comment avoir la paix de Dieu dans mon cœur si je n'ai pas fait la paix avec Dieu? Ça, c'est la première étape. Comment faire la paix avec Dieu? Me tourner vers lui et l'accepter comme mon sauveur personnel. L'accepter, me reconnaître pécheur, le Seigneur vient dans ma vie. Alors, une fois qu'on a fait la paix avec Dieu, la paix de Dieu va s'installer en nous. La paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. La paix de Dieu où Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ça, c'est grandement rechercher la paix dans le monde, n'est-ce pas? Comme les gens recherchent la paix. Ils vont dans toutes sortes de thérapies, ils vont prendre des médicaments, essayer de toutes sortes de choses pour trouver la paix. La méditation, le yoga et toutes sortes de choses comme ça. Alors que Jésus nous offre la vraie paix. Alléluia! La paix de Dieu. « Je vous laisse ma paix. » C'est une saveur qui est précieuse, d'une grande valeur. Mais la paix aussi avec mon prochain, ça veut dire me réconcilier. Et nous avons ici le témoignage, très court d'ailleurs, la réconciliation d'Ésaü et Jacob. Ésaü courut à sa rencontre, alors que Jacob s'emmenait avec sa famille, ses troupeaux et tout ça. Il l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa et ils pleurèrent. 20 ans auparavant, Ésaü voulait tuer Jacob. Et lorsque Jacob est revenu, il craignait vraiment parce qu'il a appris qu'Ésaü s'en allait avec 400 hommes. Mais Ésaü venait avec de bons sentiments. Ils sont réconciliés. Ils ont fait la paix l'un avec l'autre. Si une situation avec laquelle vous n'êtes pas en paix avec quelqu'un, l'apôtre Paul dit, donc, soyez en paix en autant que ça dépende de vous. Allez vers l'autre pour vous réconcilier. Faites les premiers pas pour voir, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire qu'on peut se réconcilier ensemble. D'ailleurs, le Seigneur dit quoi? Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Va te réconcilier. Va refaire la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, dit le Seigneur. À nous de faire les premiers pas parfois pour établir la paix, en autant que ça dépend de nous. La quatrième saveur est celle-ci. La patience. Le mot patience, il y a 2 mots grecs pour le mot patience, mais il y a un mot ici qui est utilisé, qui dans certaines Bibles, anciennes versions peut-être, était le mot longanimité. Ça veut dire quoi? Supporter sans colère, ni révolte, les défauts des autres et les désagréments de la vie. Est-ce que c'est votre cas? Pas beaucoup d'amen, hein? Il fallait répéter pour être sûr que vous avez compris. Supporter sans colère ni révolte les défauts des autres et les désagréments de la vie. Bon, OK. Ils sont d'accord. Avez-vous besoin de longanimité? Des fois, on en a besoin. Hein? Ça veut dire aussi se maîtriser face à une provocation sans riposter ni se venger. Ne pas donner libre cours à sa colère. C'est le Saint-Esprit qui, lorsqu'on s'abandonne à Dieu, peut produire ça en nous, pour nous amener à avoir une telle attitude, un tel comportement, comme Dieu veut que ce soit. Le roi Saül poursuivait David, et David a eu l'occasion, dans une caverne, de tuer Saül. Ses hommes disaient, « Ah, maintenant, il est à ta portée, vas-y! » Et David n'a pas osé lui toucher. Et Saül a reconnu comment David était juste. Quand on nous envoie promener, quand on est victime d'une injustice, quand on vous pile sa petite orteille, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? La patience. Jacques écrit ceci dans sa lettre. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. La patience dans les épreuves. Job a quelqu'un qui a été éprouvé. Les prophètes ont été aussi Jérémie, Ésaïe. Ils n'ont pas été accueillis à bras ouverts. Bravo Jérémie, on accueille, on est content quand tu nous parles comme ça. Au contraire. patience, supporter les épreuves, les difficultés sans colère ni révolte. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. La cinquième saveur est celle-ci, la bonté. Dieu est un Dieu qui est riche en bonté, n'est-ce pas? Car ta bonté vaut mieux que la vie de psaume 63. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Et lorsque David a écrit cela, alors qu'il était poursuivi par Absalom, ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Aucun désert ne peut nous priver de la bonté de Dieu, frères et sœurs. Le psaume 27, le verset 13, dit quoi? Il me semble l'avoir mis à l'écran. Ah, je ne l'ai pas mis? Alors, d'abord, non, si je ne l'ai pas mis, excusez-moi, je pensais l'avoir mis. Le psaume 27 nous dit ici que la bonté de Dieu, s'il n'était pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Dieu est bon, on l'a chanté ce matin. Mais cette bonté-là, elle peut se manifester au travers de nous aussi. Un jour, le roi David a dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? » Et effectivement, il s'est trouvé le petit-fils de Saül, Mephibosheth, que David a invité à sa table, et il a pris soin de lui et de ses serviteurs pour le reste de sa vie. Faire preuve de la bonté de Dieu envers les autres. La bonté, c'est une forme de compassion, de générosité, comme le bon samaritain. Le bon samaritain, un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion de ce qu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, et le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Fais preuve de bonté, de bienfaisance, d'amour, de générosité envers le prochain. Un inconnu! Quel beau témoignage, frères et sœurs! Dieu veut qu'on déverse de la bonté envers les autres, qu'on produise cette saveur. Revêtez-vous de sentiments de bonté. Plein d'attention, de bonne disposition envers des gens qu'on connaît à peine des fois. C'est ça la bonté de Dieu. La sixième saveur est la bienveillance. En fait, la bienveillance découle de la bonté. Lorsqu'on est bon, on devient bienveillant. Faire du bien ou être indulgent. Le Proverbe chapitre 14, verset 9 nous dit, « Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. » Parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Faire du bien aux autres. Il y a un exemple de cela, c'est Barnabas. Barnabas, qui signifie « fils d'exhortation », a été celui qui a accueilli Saul de Tarse, qui était converti depuis quelque temps, qui est venu à Jérusalem, et les chrétiens ne croyaient pas qu'il était devenu chrétien. Ils le connaissaient comme un persécuteur, et Barnabas le prit avec lui et le présentait aux apôtres. Il était bienveillant envers lui. Plus tard, Barnabas a été bienveillant envers Marc, qui avait abandonné Paul et Silas, Paul et Barnabas dans leur voyage. Il le prit encore avec lui. Bienveillant. Prendre soin de l'autre, l'aider dans son cheminement avec Dieu. On est appelé, frères et sœurs, à faire cela parfois entre frères et sœurs, de prendre soin de l'autre, de l'aider aussi à marcher avec Dieu. La septième saveur, c'est la foi. La foi dans le sens d'une ferme conviction qui est basée sur ce qu'on a entendu, sur la parole de Dieu. Une foi qui est une confiance entière. Abraham a eu cette foi-là. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi. Il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ayons cette conviction en nous. Cette assurance que Dieu, ce que Dieu a promis, il va l'accomplir, comme Abraham, très âgé, sa femme aussi, et pourtant un fils aîné. Dieu veut se manifester au travers de nos frères et sœurs. Gardons cette foi ferme dans notre cœur. La huitième saveur, la douceur. Eh bien, la douceur ici, c'est une attitude par laquelle on accepte l'action de Dieu en nous sans contester. Ça, ce n'est pas de la faiblesse, mais d'accepter que Dieu travaille dans mon cœur sans que je résiste d'aucune façon. Laissez Dieu agir en moi. Le Seigneur dit quoi ici dans Matthieu chapitre 11? Ah bien, en Éphésiens d'abord. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et Jésus dit, « Je suis doux et humble de cœur. » La douceur, non pas la faiblesse, mais cette attitude qui laisse Dieu agir en lui sans contester, sans résister, laissant travailler en nous. Ce n'est pas de la faiblesse, ça. La neuvième saveur est la maîtrise de soi. Ah ça, on en a bien besoin parfois, n'est-ce pas? Bien besoin parfois. La maîtrise de soi. Le contrôle de mes attitudes, de mes réactions, de mes comportements, de mes pensées. C'est un travail à long terme. Je ne sais pas si j'ai mis le verset de Proverbe 16. Oui. La lenteur de la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. Celui qui s'empare de ville à l'époque était un héros, mais il me dit, être maître de soi, c'est encore mieux que ça. La maîtrise de soi. Que Dieu puisse produire cela en nous. Nous aider à changer, nous façonner, travailler en nous. Et ça demande, ça, une discipline personnelle. L'apôtre Paul dit qu'il tenait son corps vraiment en bride. Il se tenait lui-même bien solide pour ne pas tomber, pour tenir ferme dans sa foi, dans sa marche avec Dieu. La maîtrise de soi, de ses appétits, de ses désirs. Seigneur, aide-moi. Et lorsqu'on lui demande, il le fait certainement, parce qu'on est des serments attachés au cep, et il ne peut pas arriver autre chose que le fruit de l'esprit dans nos vies. C'est quoi le but du fruit de l'esprit? C'est de manifester la gloire de Dieu dans ce monde. Le monde actuel ne connaît pas grand-chose de Dieu. Il connaît ses religions, les sectes, une perception vague de Dieu. Mais lorsque nous portons le fruit de l'esprit, le Seigneur le dit, c'est là qu'on manifeste la gloire de Dieu. C'est là qu'on est les témoins de qui est Jésus. Et puis, un fruit, ça sert à quoi? À être mangé. On est appelé donc à nourrir le monde avec notre attitude, notre comportement, notre vie personnelle. Et c'est faire preuve de la générosité de Dieu envers ce monde. Produire ce fruit de l'esprit en abondance pour que les gens puissent voir la gloire de Dieu dans nos vies, frères et sœurs. Cependant, produire du fruit de l'esprit, se laisser émonder, ça demande parfois un brisement. Ça peut demander parfois, ça peut faire mal. Comme je dis tantôt, quand le dermatologue s'est occupé de moi, là. Mais c'est pour notre bien. Alors, lorsque Dieu vient avec sa parole comme un sécateur pour enlever ce qui n'est pas bon, eh bien, merci Seigneur de ce que tu fais en moi, de ce que tu opères en moi, Seigneur, parce que tu m'améliores, tu me changes pour le mieux. Mais c'est parfois humiliant, ça peut être difficile, mais combien bénéfique. Je ne sais pas quelle saveur il vous manque en particulier. Peut-être que de toutes les saveurs que vous avez entendues ce matin, il y en a peut-être une que, oh, moi c'est la maîtrise de moi c'est la patience, moi c'est la joie, moi c'est la paix, moi c'est... Quelle qu'elle soit, si nous décidons de dire, Seigneur, je veux te laisser me changer et produire en moi ce fruit dont j'ai tant besoin, Seigneur, pour te glorifier, je vous dis, frère et sœur, ça va arriver. On a chanté un beau chant ce matin qui dit des fois, Seigneur, bon, j'ai des erreurs, tout ça, Seigneur, puis on demande pardon à Dieu et il le fait. Et alors, il commence à nous changer et nous transformer pour sa gloire. Et cette semaine, je vous lance un défi. Si vous identifiez dans votre vie une saveur, une des neuf que j'ai mentionnées, que vous croyez vraiment que c'est ça qui vous manque, dites, Seigneur, cette semaine, montre-moi comment je peux porter davantage de fruits dans cette saveur-là. Comment est-ce que je dois démontrer de l'amour? Comment est-ce, Seigneur, que je peux produire de la joie ou de la paix? Seigneur, viens mon secours, change-moi, Seigneur, libère-moi, afin vraiment que ce qui est mauvais soit enlevé et que ce qui est bon puisse produire encore plus de fruits. Et je vous le dis, frères et sœurs, ça va se produire. Peut-être que vous dites, moi, ce n'est pas une saveur, c'est 3-4 saveurs qui manquent. Commencez par une par semaine. Ne mettez pas la barre trop haute, là, parce que vous allez vous décourager. Puis d'ailleurs, parlant de découragement, ne soyez pas découragés de ne pas être là où vous devriez être. Des fois, on se dit, ah, comment ça se fait, Seigneur, que je suis encore comme ça après tant d'années? Qu'est-ce qui m'est arrivé, donc? J'ai bien aimé ce qu'Esther a dit tantôt. Son père est imparfait, moi aussi. On est imparfait. Mais on est en changement, en transformation pour produire plus de fruits. Merci, Seigneur. Mais il faut qu'on en prenne conscience qu'à un certain point, qu'on le laisse travailler. Si j'avais dit au dermatologue, hey, non, vous ne touchez pas, moi, je ne veux pas vous affaire. Non, il faut laisser Dieu agir en nous. Et si nous le faisons, alors, le Père céleste a produit de bonnes choses en nous. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? Si dans votre cœur ce matin, vous êtes conscient qu'il y a une saveur qui vous manque, quelle qu'elle soit, Eh bien, on va dire, Seigneur, ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu aides mon frère, ma sœur, peu importe la circonstance de sa vie, peu importe, Seigneur, le temps qui est depuis le temps qu'il te connaît, à le laisser, Seigneur, enlever ce qui n'est pas bon, puis produire ce qui est merveilleux et fructueux. Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs. Tu vois, Seigneur, on t'a demandé pardon, Seigneur, pour nos fautes. On sait que tu es un Dieu de miséricorde. Et ma prière, ô mon Dieu, c'est que tu nous libères de ce qui est mauvais et qu'au contraire, Seigneur, que l'homme nouveau puisse se manifester encore davantage, comme Paul l'a écrit, de se dévêtir du vieil homme, de rejeter les choses anciennes, les choses mauvaises, et de se revêtir de l'homme nouveau. Mais Seigneur, toi seul, tu peux faire ça en nous. Aide chacun, ô mon Dieu, cette semaine. Oui, Seigneur, c'est à la transformation que tu veux faire en nous, afin que tu sois glorifié dans notre milieu de vie, au travail, en famille, à l'école, dans le voisinage. Seigneur, que les gens puissent voir en nous une partie de ta gloire. Oui, Seigneur, que les gens puissent être étonnés de la paix que nous transpirons, de la joie, Seigneur, la patience aussi. Seigneur, mais des fois, c'est plus que des paroles, c'est par nos attitudes qu'on est un témoin aussi. Que chacun puisse témoigner de cela dans son entourage, être attiré à vouloir savoir comment tu fais pour être comme ça. C'est toi, Seigneur, qui le fais en nous. Aide-nous, ô Dieu. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Jour après jour, nous en remettons à toi. Amen.